Bonjour, je suis Sacha Capdevielle et je vous accueille sur la chaîne de podcast de l'Observatoire des sciences de l'univers, Institut Pythéas. Vous entendrez ici des scientifiques venant de différentes disciplines, allant des profondeurs de l'océan aux confins de l'univers, vous parler de leurs recherches et de leurs innovations. Bienvenue sur Immerscience, la science qui résonne, et maintenant, place à l'épisode. Je me trouve aujourd'hui à la station marine d'Andoum à Marseille, un lieu de recherche lové au creux de la corniche et donnant directement sur la mer. Thierry Pérez, chercheur à l'IMBE, et Marie Grenier, sa doctorante, m'accueillent dans leur bureau avec une vue imprenable sur la ligne d'horizon pour me parler de leur recherche sur les éponges. Au bord de l'eau ou dans des grottes inexplorées, comment en sont-ils arrivés à les étudier ? Voici le témoignage de deux passionnés de l'océan.
Bonjour Thierry Pérez, je suis chercheur au CNRS. Je travaille en écologie marine depuis quelques années. Je conduis des recherches sur les écosystèmes benthiques, principalement de Méditerranée, mais je suis amené à travailler un petit peu partout dans le monde. Benthique, ça veut dire tout ce qui vit sur le fond, avec une petite spécialité pour un groupe d'organismes dont on va parler, qui s'appelle les éponges.
Marie Grenier, je travaille au sein de l'IMBE depuis 2015. D'abord en tant que stagiaire de Master 2 et après pendant quelques années en tant qu'ingénieur d'études, et je me suis spécialisée sur la taxonomie des éponges. Et là, depuis 2020, j'ai commencé une thèse CIFRE en collaboration avec l'entreprise Neurosis à Gardanne, qui est spécialisée dans la découverte et le développement de molécules chimiques pour le traitement de maladies neurodégénératives.
Mais avant de démêler leurs objectifs de recherche sur ces organismes, je me suis demandé comment Thierry et Marie s'étaient rencontrés et avaient décidé de travailler ensemble autour de ce sujet de thèse bien particulier.
À l'époque, je finissais mes études de master à Lumini, c'était en 2014. Et un collègue de promo a vu passer une annonce sur une école thématique internationale à Malte. Et donc, il nous en a parlé, à moi et à une autre copine de promo. On a décidé donc de candidater tous les trois. Et on a quand même eu la chance et la joie de découvrir qu'on avait été pris tous les trois pour partir, pour faire ce workshop. À l'époque, les scientifiques étaient présents, il y avait l'équipe de la station marine d'Andoum, dont Thierry. Et donc, à l'époque, j'étais une des dernières de ma promo à ne pas avoir de stage. Et donc Thierry m'a proposé un sujet sur les éponges, que j'ai accepté. Et c'est là que tout a commencé.
Le cheminement, c'est que les éponges sur lesquelles elle travaille sont un peu le fil rouge de ma carrière, les éponges de toilette, depuis quasiment que je suis... étudiant, je les approche, je travaille dessus. Ma première expérience avec ces éponges-là, ça a été tout de suite après donc ce qui est aujourd'hui le Master 2, une invitation à participer à un workshop sur l'île de Kalymnos, qui est la capitale mondiale de la pêche des éponges depuis des siècles, en fait. Et donc, moi, je venais tout juste de commencer à travailler sur les éponges en général, mais pas sur ces éponges-là. Et en rencontrant la communauté de pêcheurs qui était présente sur cette île, en me confrontant à leur culture, à leur passion, j'en ai fait mes espèces modèles depuis tout de suite par la suite, quoi, pendant ma thèse, mon post-doc et l'objet de mes recherches quand j'ai démarré comme chercheur au CNRS. Et parmi les questions qui se posaient déjà très rapidement, c'était le fait que les pêcheurs reconnaissent des dizaines, voire des centaines de variétés à travers le monde, puisque ces éponges-là sont pêchées un peu partout, en Méditerranée, dans les Caraïbes, au Golfe du Mexique, dans le Pacifique aussi un tout petit peu. Alors que les scientifiques ne reconnaissent qu'une quinzaine d'espèces parmi celles qui sont exploitées. Donc là, il y avait quelque chose, un paradoxe un petit peu à élucider. Et Et c'est comme ça que j'ai gardé en tête depuis ce constat-là, l'idée d'un jour trouver le moyen de travailler sur ces éponges-là et revoir leur identification et leur classification. Et donc la thèse de Marie, il se trouve que ma recherche a toujours été interdisciplinaire, j'ai toujours travaillé en relation avec d'autres disciplines, notamment avec la chimie. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à développer au laboratoire un plateau technique de métabolomique. C'est une approche qui a ses fondements en chimie et qui permet d'étudier la diversité des molécules qui sont produites par un organisme. Donc il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai initié avec des collègues chimistes un gros programme qui avait le but d'étudier la diversité chimique de tout un tas d'organismes marins de Méditerranée. C'est un programme qui s'appelait ESIMAR, qui voulait aussi trouver des activités biologiques assez composées pour des applications principalement dans le domaine médical, des anticancéreux, des antiviraux, bactériens, etc. Et donc comme ça, on travaille sur plein d'espèces différentes. Et après avoir mis en place ce plateau technique de métabolomique qui s'appelle Malabar, la station marine, il y a 7 ans, 8 ans maintenant, il se trouve qu'on a été sollicité, comme on était un des seuls laboratoires dans la région à avoir ce type d'équipement-là, par une entreprise qui fait de la neuropharmacologie, l'entreprise dont tu as parlé, Marie, pour venir faire des analyses de ce sur quoi ils travaillaient, des plantes en fait, à l'origine. Et évidemment, comme toute entreprise de pharmacologie, ils connaissaient bien, parce qu'ils sont cultivés, le pouvoir, le potentiel des éponges, qui en termes d'organismes marins n'ont pas d'équivalent aujourd'hui dans le vivant. Il y a très peu d'organismes qui ont la même capacité à produire autant de molécules avec autant de potentialités en termes de valorisation. Et donc j'aurais proposé d'essayer quelques espèces que nous avions déjà étudiées, mais pas pour ces applications-là. Et c'est comme ça qu'on a identifié une activité un peu prometteuse sur une éponge de bain. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, à essayer de trouver les moyens de collaborer sur ce sujet.
Le sujet de thèse de Marie s'intitule « Systématique intégrative des éponges de bain et évaluation de leurs propriétés neuropharmacologiques ». Mais qu'est-ce que la systématique intégrative exactement ?
De façon générale, la systématique, c'est une science qui permet de classer des organismes entre eux. Et c'est un terme qu'il ne faut pas confondre avec la taxonomie, qui, elle, est une science qui permet de nommer un organisme et de lui donner un nom. Donc là, je vais illustrer mes propos en me replaçant dans le cadre de mon sujet de thèse et en prenant l'exemple de mon modèle d'étude, que sont les éponges, et plus particulièrement les éponges de la famille des éponges de bain, qu'on appelle les spongidées. Donc, dans un premier temps, mon travail consiste à étudier différentes informations qui vont caractériser mes éponges. Chacune de ces informations, qu'on va appeler caractères ou traits, forme ce qu'on appelle un jeu de données. Et donc moi, j'étudie 3 caractères différents, donc 3 jeux de données différents. Donc j'étudie les caractères morphologiques, c'est-à-dire les éléments internes et externes qui composent mon éponge, les caractères génétiques, donc l'analyse de l'ADN notamment, et les caractères chimiques, c'est-à-dire la diversité des molécules chimiques qui sont produites par ces éponges. Donc ensuite, je vais associer, combiner l'ensemble de ces 3 jeux de données pour pouvoir nommer mes éponges ou les décrire dans le cas d'une espèce nouvelle qui est encore inconnue de la science. Mais cette étape-là s'appelle la taxonomie intégrative. Pourquoi taxonomie ? Parce que je nomme mon éponge. Et intégrative parce que je combine l'ensemble de 3 jeux de données pour affiner mon identification. Une fois que j'ai nommé mes éponges, je vais pouvoir les positionner les unes par rapport aux autres en comparant les similitudes et ce qui les oppose. Malgré tout, cette étape-là s'appelle la systématique intégrative. Systématique parce que je classe. Et pourquoi classer ? Parce que l'être humain de nature aime classer, regrouper les choses les unes par rapport aux autres, tout simplement.
Malgré toute la diversité d'éponges marines, la thèse de Marie se concentre uniquement sur les éponges de bain. Mais pourquoi ce groupe est-il particulièrement intéressant ?
Les éponges de bain, elles sont pêchées et exploitées pour leur squelette depuis l'Antiquité. Il existe différentes applications, mais la plus connue reste celle de l'utilisation de ce squelette pour se laver, notamment. Et aujourd'hui, il existe encore des incertitudes taxonomiques, donc liées au nom qu'on donne à ces espèces, et qui concernent certains représentants de cette famille d'éponges. Et ces incertitudes, elles sont liées notamment à des identifications anciennes qui sont douteuses et à l'emploi par les pêcheurs par un très grand nombre de noms communs qui décrivent parfois une seule et même espèce au niveau scientifique. Et il faut savoir que chaque espèce d'éponge de bain a une valeur commerciale. Cette valeur commerciale, elle repose sur les propriétés du squelette et notamment sur l'élasticité, la souplesse et la résistance de l'éponge. Donc c'est pour ces différentes raisons que je révise une partie de la systématique de ces éponges pour pouvoir travailler sur des espèces qui sont précisément identifiées. Parce que c'est la base, c'est primordial, de, avant toute recherche, de savoir sur quoi on travaille et de quoi on parle. Quand je vais déceler une activité neuropharmacologique chez une éponge, je vais devoir trouver quelle est la molécule ou les molécules qui sont responsables de cette activité. Et c'est à partir de là que le lien se fait par rapport aux caractères dont je parlais précédemment, les caractères chimiques, donc la diversité des molécules que les éponges sont capables de produire. Et grâce à une approche à cette approche de chimie, qu'on appelle la métabolomique, je vais pouvoir identifier ces molécules, là où les molécules qui sont responsables de l'activité. Au-delà de l'exploitation de leur squelette, les éponges suscitent un intérêt depuis 70 ans, dans le domaine de la chimie des produits naturels marins, parce qu'elles renferment une diversité et une complexité de molécules chimiques très importantes qui leur permettent de se défendre et de survivre dans leur environnement contre les prédateurs, les pathogènes. Parce qu'il faut rappeler que les éponges sont des animaux sessiles, c'est-à-dire des animaux qui sont fixés sur un substrat. Et donc, il a été démontré une grande diversité d'activités pharmacologiques chez les éponges, notamment pour des propriétés anticancéreuses, anti-infectieuses et anti-inflammatoires. Et dans le cadre des pathologies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, un des modèles que j'étudie pour ma thèse, il a été montré que certaines molécules avaient un potentiel neuropharmacologique, mais qui restait encore très inexploré. Et la deuxième raison, c'est, ça fait partie d'un des objectifs de ma thèse, c'est de proposer une double valorisation de cette ressource biologique. Elles pourraient être exploitées à la fois pour leur squelette, comme aujourd'hui, mais aussi pour les propriétés neuropharmacologiques, les potentielles propriétés neuropharmacologiques qu'elles pourraient avoir.
Mais pour étudier les propriétés chimiques, il faut avoir accès à des échantillons. Les éponges sont des organismes qui vivent sur quasiment toutes les latitudes et les longitudes. Il en existe même tapis dans les abysses. Alors comment organise-t-on les terrains ? Parfois à côté du labo et d'autres fois à l'autre bout du monde.
Le terrain, il y a deux types d'approches en fait. Hein. Il y a le terrain au quotidien qui relève de missions légères. On se lève le matin, on met son maillot de bain, on charge le camion de son matériel de plongée, on prend le bateau, on va plonger, on récolte et à la fin de la demi-journée, à midi, on revient avec des échantillons. La deuxième approche, c'est un peu plus lourd. On part pour plusieurs jours, plusieurs semaines, pour explorer une région géographique qui est loin de nos bases. Donc, quand on fait ça dans le cadre de la thèse de Marie, on part avec un équipement qui nous permet de conserver ces échantillons, c'est-à-dire de quoi les préserver pour les différentes analyses qu'elle a à faire, donc des solvants, de l'alcool notamment, pour faire les analyses de génétique et les analyses morphologiques, mais aussi, c'est notre spécificité, c'est qu'on part avec un petit congélateur portable pour amener des échantillons fraîchement congelés pour les analyses métabolomiques et neuropharmacologiques. Une fois sur le terrain, donc on plonge, on échantillonne, et au retour de la plongée, comme on le ferait au laboratoire, on monte un petit laboratoire de campagne, où on a nos bassines de tri, nos flacons, nos solvants, notre congélateur, etc. Et donc là, moi je passe la main à Marie.
C'est vrai qu'on est assez complémentaires avec Thierry, notamment sur les missions terrain. Lui s'occupe donc de la partie plongée et de me ramener mes éponges. Et donc moi j'interviens à partir du moment où je réceptionne les éponges après la plongée. Et donc là, il faut savoir qu'en fonction des analyses qu'on veut conduire au laboratoire, il y a différentes fixations. Fixation, c'est-à-dire conservation des échantillons. Donc dans mon cas, j'ai deux types de conservation différentes. J'ai une conservation dans l'alcool pour mes analyses de génétique, parce que l'alcool conserve l'ADN. Et j'ai une partie de congélation immédiate de mes éponges pour mes analyses de chimie et de neuropharmacologie, pour en fait stopper immédiatement toutes les réactions métaboliques qui peuvent se dérouler au sein d'un organisme, au sein des éponges.
Et il y a une troisième approche du terrain qui est où tu pars en mer avec un bateau pendant des semaines. Et là, tu cumules du matériel pendant des semaines. Et ensuite, tu mets 3, 4, 5 ans, parfois 10 ans. Parfois, c'est l'objet d'une vie qui est ramenée dans le cadre de ces campagnes-là, qu'on appelle des campagnes océanographiques, qui sont traitées ensuite au laboratoire. Et la base de mon travail, c'est vraiment ce que fait Marie aujourd'hui. Hein, c'est un travail de naturaliste, de description de la biodiversité. Donc je fais partie de ces rares personnes encore en activité dans le domaine académique français qui continuent à explorer, à décrire la biodiversité. Donc c'est ma façon de combattre quelque part l'érosion de la biodiversité. Quand il y a des espèces qui disparaissent, moi j'en crée. J'ai tendance à me prendre pour Dieu de temps en temps. J'en crée des nouvelles régulièrement en explorant des endroits où on manque de connaissances sur la biodiversité. Donc au cours de ma carrière, j'ai effectivement eu l'occasion de revisiter, comme beaucoup d'endroits en Méditerranée, des sites où on était déjà passé, mais où il reste encore énormément à découvrir. Il y a un site en particulier à Marseille que j'étudie depuis que j'ai 25 ans, où on est loin d'avoir fait le bilan complet de la biodiversité des éponges qui sont abritées dans cet endroit-là. J'ai eu l'occasion d'aller dans les endroits qui étaient mal connus, et où donc on a créé des référentiels, les Antilles en particulier. C'est paradoxal parce que les éponges sont partout dans la mer Caraïbe et en particulier dans les Antilles françaises, mais elles avaient été très peu étudiées. Et, donc il y a 6 ans, j'ai organisé une campagne océanographique avec un bateau qui a fait 2 fois le tour des petites Antilles et qui a étudié la diversité des éponges, et on a maintenant un référentiel qui est complet ou presque complet pour les petites Antilles. Et puis j'ai aussi l'opportunité d'aller dans un endroit où personne n'était allé avant moi et probablement personne n'est allé après moi. Et donc là, on a apporté les premières connaissances de la biodiversité des éponges et d'autres choses d'ailleurs, parce que souvent je pars pas seul, dans ces endroits-là où il y a très très peu de connaissances qui ont été accumulées. Quoi. Tout ça montre quoi ? C'est que on perd probablement de la biodiversité avant même qu'on ait appris à la connaître. Hein. Aujourd'hui, on estime que, ne serait-ce que pour les éponges, on ne connaît que 50% de ce qui existe réellement. Et quand on dit ça, on est vraisemblablement très loin de la vérité, en fait. On connaît certainement beaucoup moins. Quand on étudie la biodiversité, il y a deux raisons de le faire. La première, c'est juste par curiosité scientifique. Ça peut être vite maladif, hein, ça peut s'apparenter à ce que font les collectionneurs, hein, qui ont tout un tas de choses, d'objets poussiéreux chez eux. Mais ça peut être simplement pour apporter des bases de connaissances qui vont permettre de voir comment évolue la biodiversité sur le long terme. Et ça, quand on arrive à un certain âge, une certaine expérience, ou quand on a encore la possibilité, comme c'est le cas dans ce laboratoire, d'avoir des données anciennes qui permettent de voir comment était la biodiversité à différentes périodes, et bien on peut commencer à essayer d'évaluer quelles sont les pressions et leur origine, 100% humaine, naturelle, c'est ce qu'on appelle l'évolution, plutôt lié au changement de régime global environnemental sur la biodiversité. Donc ça, c'est les travaux qu'on commence à faire dans différents cadres et toujours quand on a des référentiels qui sont suffisants pour faire ces comparaisons à long terme. Donc par exemple, on fait ça à Marseille, hein, l'objet du stage de master de Marie, c'était de mettre en place une stratégie de suivi de la biodiversité des éponges dans un écosystème particulier. Et donc là, on a déjà 10 ans de suivi dans ces écosystèmes-là depuis que Marie a fait son stage. Ça fait longtemps qu'on a démarré ton stage. Hein. pas 10 ans, mais pas loin.
Ces suivis de biodiversité, nécessaires pour comprendre le devenir des éponges et des nombreux organismes qui interagissent avec elles, Thierry les réalise aussi à l'étranger, notamment sur une île où on estime que 70% des espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent qu'à cet endroit précis.
C'est ce que je fais à Madagascar. À Madagascar, j'ai une doctorante qui est en train de reproduire l'échantillonnage qui a été fait par Jean Vasselet, hein, qui est la porte à côté de nous, dans les années 70. Et donc, 50 ans plus tard, on regarde comment la biodiversité des éponges a changé en reproduisant le même échantillonnage, autant que possible, parce que ce sont des personnes différentes qui le réalisent, et autant que possible dans les mêmes endroits. On va voir des choses et on va essayer de lier ces changements à, en particulier dans cet endroit-là de Madagascar, au changement du régime de pression sur le littoral, car l'endroit en question a connu une explosion démographique très importante au cours des 50 dernières années. Ensuite, on peut aussi regarder, donc là ça renvoie plus au sujet dont on vient de parler, les éponges de toilette, à comment une famille ou un petit groupe d'espèces va subir sur le long terme les changements environnementaux. Et on a la chance, avec les espèces qui sont exploitées, d'avoir accès à des registres de données qui sont anciens. Parce qu'une espèce qui est exploitée, elle fait l'objet de notes dans des cahiers de pêche et de rapports qui sont tenus par différentes administrations. Et donc en réunissant ces rapports qui sont évidemment, un siècle et demi plus tard, dispersés dans plein de pays différents, dans plein d'administrations différentes, ben on a réussi par exemple pour les éponges de toilette en Méditerranée à refaire l'histoire de la pêche de ces espèces-là, à voir comment la production avait varié et comment elle avait varié, surtout en fonction de l'effort de pêche ou du contexte du moment. Du contexte, alors ça peut être un contexte politique, économique, un contexte de guerre aussi, où on a vu que l'activité, assez naturellement, quand il y a un conflit, s'arrête parce qu'il y a d'autres préoccupations, mais aussi liées au changement, aux manifestations du changement climatique.
Aujourd'hui, Thierry et Marie ont conscience du caractère extraordinaire de leur sujet de recherche qui les mène au bout du monde, tout en leur permettant d'étancher cette soif de savoir.
Le cadre de travail et les conditions de travail qu'on peut avoir à la station marine d'Andoume, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux et qu'on fait beaucoup de jaloux. Après, bien sûr, les opportunités de voyage qu'on peut avoir pour des missions terrain, des congrès, des workshops, forcément. Et après, dans le cadre de ma thèse, c'est vrai que c'est un vrai challenge, un vrai défi. Là, je sors vraiment de ma zone de confort. Quoi. C'est l'ascenseur émotionnel à tous les niveaux. Quoi. C'est un booster de sensations. Le Space Mountain de Disney. Quoi. C'est des simples manips, c'est des simples résultats. Mais quand tu as passé du temps à préparer tout ça et que tu as un super résultat, ben, ça multiplie par 10 ta joie, entre guillemets. Quoi. Et après, c'est surtout les voyages. C'est tout ce qu'on peut découvrir quand on part faire une mission terrain, un workshop, un congrès, c'est les rencontres scientifiques mais aussi humaines. C'est souvent sur des périodes très courtes, donc c'est des liens qui sont tissés très vite et très forts. Et souvent avec un verre à la mer, mais ça je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Et puis ouais, évidemment la thèse, je pense que ça en fera partie, mais j'attends encore quelques années pour avoir assez de recul pour pouvoir dire ça.
Il y a deux choses qui m'animent, hein. La partie qui me passionne le plus dans mon travail, c'est l'exploration de cette biodiversité, et c'est effectivement la possibilité, et ça c'est pour ça permet de nourrir un peu mon ego, de visiter des endroits que très peu de gens vont voir. Et là où je prends un pied très très grand, c'est quand j'ai réussi à le partager, ces moments-là, avec des collègues et mes étudiants. Donc ce qui m'anime, c'est de pouvoir partager ça, notamment avec Marie, d'aller travailler dans des endroits où très peu de gens ont pu aller avant nous et d'y trouver des trésors que personne n'avait trouvé avant nous. Je dirais que le plus beau souvenir, il est à venir. C'est celui où j'aurais transformé Marie en exploratrice et j'aurais eu la chance de réussir à l'amener aux Marquises, qui est un des endroits qui m'a vraiment marqué dans ma carrière.